Le bienheureux Auguste Chapdelaine, un nom bien québécois, quoi. Auguste Chapdelaine. C'était un prêtre des missions étrangères de Paris qui est mort en Chine il y a 140 ans exactement, aujourd'hui. Il est bienheureux, il a été martyrisé avec plusieurs personnes qui l'avaient amené à la foi catholique. C'était un jeune prêtre, un courage vraiment extraordinaire. Il est mort jeune. Il a été capturé très rapidement. Mais quel courage, quelle audace, pas croyable. Et une fierté de jeune Français missionnaire. C'est aussi la fête de la bienheureuse Antoinette, une mère de famille qui est morte en 1472. Elle était de Florence, en Italie. C'est la fête aussi de Saint Romain de Condat, que l'on fête habituellement le 28 février, mais je le prends pour aujourd'hui. Saint Romain de Condat, un moine, abbé de monastère, qui a vécu avec son frère Saint Lupicin, encore un nom curieux, Lupicin. C'était deux moines, mais Lupicin s'est marié avant de devenir moine et d'aller rejoindre son frère. C'est avant Saint Benoît qui a fondé les bénédictins, n'est-ce pas? Et enfin, c'est la fête d'un pape, Saint Hilaire, qui est mort 5 ans après Saint Romain de Condat. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je commence donc avec le bienheureux Auguste Chapdelaine. Auguste Chapdelaine est né au diocèse de Coutances. Coutances, c'est une ville du nord de la France. C'est une ville assez importante, c'est sur la Manche, qui sépare la France de l'Angleterre. Il est né le 6 janvier, le jour de la fête des rois, quoi, en 1814. Oui, puis il est mort en 1856, donc il est mort à 42 ans. Dans la pleine force de l'âge. Il a été ordonné prêtre en 1843. Il est entré, comme je vous ai dit, dans la Société des missions étrangères. C'est la même chose que nos missions étrangères de Pont-Viau, non loin d'ici. Des prêtres séculiers, ça, qui se donnent aux missions à l'étranger et qui sont souvent d'un courage qui dépasse l'entendement, hein. S'il faut lire ça, hein. Il faut en particulier rencontrer au besoin ou vous abonner à la revue des missions étrangères de Pont-Viau, vous verrez. Mais surtout, si vous allez à Paris et que vous allez à la chapelle de la médaille miraculeuse, près du magasin du Bon Marché, là, à Paris, c'est juste derrière, la chapelle de la médaille miraculeuse, où Sainte-Catherine Labourée a eu cette révélation, n'est-ce pas? Et à droite de la chapelle, un peu vers la droite, un coin de rue ou deux, là, il y a la maison mère, si on peut dire, des missions étrangères de Paris. Et là, il y a un musée. Il y a aussi des prêtres des missions étrangères, c'est encore plus intéressant que le musée, hein. Mais le musée est fascinant. C'est incroyable de voir tout ce qu'on a pu ramasser d'objets relatif au courage de ces hommes qui donnaient leur vie. À l'époque où ça a été fondé, il y a déjà un bon bout de temps, les missions étrangères de Paris, bien les jeunes prêtres, là, se faisaient ordonner et ils étaient à peu près sûrs d'être martyrisés en dedans de 5 ans ou 10 ans. Alors, à l'âge de 30 ans, 40 ans, ils étaient sûrs d'être morts, ou à peu près, hein. Il y en avait qui réussissaient à passer au travers, mais c'est un peu comme de sortir dans une tempête et de ne pas se faire tremper par la pluie. Il avait vraiment du courage. Il était convaincu. Et Auguste Chapdelaine est parti pour les missions en Chine en 1851. 2 ans plus tard, il a quitté, après avoir appris vraiment le chinois, il a quitté Hong Kong. Puis, après un voyage plutôt pénible, il est entré le premier prêtre dans le Guangxi. Au bout de seulement 10 jours, d'ailleurs, il était arrêté. Ça n'a pas été long. Il a subi 16 ou 18 jours d'emprisonnement, on n'est pas sûr. Puis il a été relâché, chose surprenante. Et voici d'ailleurs comment il raconte les épreuves de cette première captivité, dans une lettre qui est datée du 18 juillet 1855. Il l'avait adressée à son supérieur des missions étrangères à Paris. Voici le texte, un passage du texte de cette longue lettre. « Je viens vous rendre compte de ce que j'ai fait pour le Guangxi, seule contrée de la Chine, ou seule province, si vous voulez, de la Chine, qui n'ait pas eu de prêtre européen depuis plus d'un siècle et demi. Les prières de l'archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires à Paris ont donné leurs fruits. Vous savez qu'à Québec, on a une grande dévotion à Notre-Dame des Victoires. Un habitant du Guangxi, continue le père Auguste Chapdelaine, un habitant du Guangxi venu au Kuaichiu pour affaires, a rencontré par hasard un de ses parents nouvellement converti, qui l'a initié aux vérités de notre sainte religion. Aussitôt, il a renoncé à ses idoles. Il a adoré le vrai Dieu et de retour dans sa famille, sans avoir reçu aucune mission, il s'est mis à exercer l'apostolat près de ses parents, c'est-à-dire à parler de Jésus, n'est-ce pas, à ses parents et à ses amis. 40 ou 50 familles se sont converties. C'est énorme, 40 ou 50 familles se sont converties par ce laïc, un nouveau converti, là, de quelques jours. Et ce nouvel apôtre, dit la lettre, est revenu donc au Kuaichiu et a demandé un chrétien pour le seconder. Je venais d'arriver, j'ai pu l'aider de mes conseils. 3 mois après, en la fête de l'Immaculée Conception de Marie, donc le 8 décembre, je célébrais la Sainte Messe au milieu de ces néophytes. Néophytes, je vous l'explique encore, pour les gens qui ne comprendraient pas le terme. Néo veut dire, comment on dit, néo-canadien ou néo-québécois, ce sont des nouveaux néophytes, des nouveaux croyants. Mais le démon, dit la lettre, n'a pas tardé à nous susciter des obstacles. 10 jours seulement après mon arrivée, un parent des néophytes est allé nous dénoncer au grand mandarin du lieu. Tout le monde sait ce que c'est qu'un mandarin. Celui-ci a dépêché sur l'heure des satellites pour se saisir de nous. Des satellites? Oui, ce sont des hommes armés qui servent dans ces régions-là comme exécuteurs des œuvres difficiles et dures. Donc, ils ont envoyé des satellites pour se saisir de nous. Ces satellites se sont emparés de 4 nouveaux chrétiens, de 2 catéchistes et de votre serviteur, donc de 7 personnes. Ils nous ont conduits à la ville voisine nommée Si Lin Yen, où il ira se cacher plus tard. Dès notre arrivée, le mandarin nous a fait appeler séparément à son tribunal. Les 4 nouveaux chrétiens ont comparu les premiers. On les a traités très durement, sans toutefois les frapper. Ce qui est exceptionnel, ça. Car la sévérité presque constante des Chinois en poste à l'égard des chrétiens dans ces persécutions-là était épouvantable. On n'a pas idée. C'est presque barbare. Pourtant, ce sont des bouddhistes. Chose étrange. Et alors donc, ils devaient être bien loin de leur foi bouddhiste. Il ajoute, puis ce fut le tour du catéchiste lettré. Il n'en dit rien. Il n'ajoute rien. Là, il passe à lui-même. Il dit, mon interrogatoire a suivi celui du catéchiste. À ma figure et plus encore à mon langage, on devina bientôt que j'étais étranger. Je fus soumis à une fouille très sévère pour s'assurer que je n'avais sur moi aucun objet suspect. On a voulu me faire faire la prostration. Vous savez ce que c'est, évidemment, là, s'étendre par terre là, de tout son long. Hein? À faire la prostration usitée en ce pays, en présence des grands personnages, et courber la tête comme un accusé. Là, vous allez voir le caractère de ce Français qui est... Mon Dieu, si on n'avait plus de monde comme ça, peut-être que notre Église ressusciterait. Peut-être que l'humanité redeviendrait solide. Écoutez bien ça. Je n'ai pas consenti à abaisser ma cause par de tels actes d'humilité chinoise. Vous voyez là la fierté, fermeté de caractère, un courage exceptionnel. Dans cette simple phrase, je n'ai pas consenti à abaisser ma cause par de tels actes d'humilité chinoise. Il sait fort bien ce qui va lui arriver alors. Il ajoute d'ailleurs, le mandarin n'a pu s'empêcher de dire à plusieurs reprises, quelle attitude! Il dit, jeune encore, une quarantaine d'années, j'ai cru ma condamnation déjà décidée. La séance terminée, on nous a passé la chaîne au cou. Nous sommes restés dans un cachot durant 24 heures. Après quoi, les satellites, nos fameux soldats de tout à l'heure, nous ont ôté nos fers et nous ont ramenés de nouveau au tribunal. Dieu le voulait ainsi pour la plus grande gloire de son nom. Sans doute aussi par la protection spéciale de Marie à qui j'avais recommandé cette affaire, le mandarin nous accueillit avec bonté, et ça c'est assez exceptionnel, c'est vraiment même fantastique. Le mandarin nous accueillit avec bonté, nous a parlé comme à des amis, et a rendu en faveur de notre sainte foi le plus beau témoignage qu'elle ait peut-être jamais reçu devant les tribunaux de la Chine. Il a demandé qu'on récite en sa présence quelques-unes de nos prières, a voulu voir nos livres de religion et a fini par nous dire que son intention n'était pas de nous inquiéter, qu'il ne fallait pas prêcher notre religion dans les villes où le pauvre peuple n'a pas le loisir de nous entendre, et c'est absolument fantastique, il leur demande de ne pas aller prêcher la religion catholique, dans les villages où le peuple, le pauvre peuple, n'a pas le loisir de nous entendre, et le mandarin en jute, mais bien dans les grandes villes où abondent les hommes instruits. C'est tout à fait la conception qu'avaient les missionnaires catholiques, souvent particulièrement les jésuites, n'est-ce pas, qui cherchaient à convertir d'abord les hommes instruits, les femmes instruites, pour atteindre le sommet. Arriver à convertir, comme ils l'ont presque réussi à le faire quelques siècles plus tôt, là, l'empereur de Chine. Bon, il faudra que je vous raconte ça quand je vous parlerai de Matteo Ricci, ce grand missionnaire. Bon, j'ai un gros livre sur lui, il faudrait que je résume ça. Mais c'est tellement passionnant. Prêcher dans les grandes villes. C'est ce que nous essayons de faire ici à Radio Ville-Marie. Grâce à la radio qui pénètre dans toutes les maisons, où on veut bien nous écouter. Parlez-en autour de vous, c'est très important. Et le mandarin a dit, avant de prendre une décision sur votre sort, je dois consulter les autorités de Kyunifu. Et je vais expédier sans délai un courrier au gouverneur de cette ville. Notre bienheureux Auguste Chapdelaine ajoute dans sa lettre, par bonheur, le courrier n'a pu parvenir au terme de son voyage. Un courrier, c'est un messager, si vous voulez. On n'utilise presque plus ce terme-là aujourd'hui. Il dit que le magistrat supérieur, à l'autre bout, là, était extrêmement hostile aux chrétiens. Et à ce moment même, où le courrier n'a pas pu se rendre, là, il faisait mettre à mort une quinzaine de néophytes catholiques. Pendant les 16 ou 18 jours que nous avons passés en prison, les païens, comme il dit, j'aime pas le terme les païens, disons les bouddhistes, mais c'est vrai que c'était pas de très bons bouddhistes, c'était peut-être des bouddhistes plutôt païens, un peu comme on pourrait dire de certains catholiques, que ce sont des catholiques païens. Alors donc, il dit ça. Bon, les païens sont venus en foule de la ville et des environs pour nous voir et entendre prêcher mon catéchiste, qui évidemment parlait leur langue. Ce peu de temps a suffi pour répandre et populariser la connaissance du christianisme. Les quatre nouveaux chrétiens dont je vous parlais tout à l'heure, saisis avec moi, ont porté des chaînes pendant 8 jours et les satellites n'ont pas voulu les mettre en liberté à moins d'une rançon. De 6 à 7 taels. C'est de la monnaie chinoise, qui a une assez grande valeur. Pour mon compte, je n'ai pu m'arracher de leurs griffes qu'en leur payant une somme équivalente. Donc, une assez forte rançon. Et la lettre se termine ainsi. Après cet incident, nous avons pu reparaître au milieu de ces nouveaux chrétiens que notre captivité, jointe aux vexations, avait frappé d'épouvante. Nous avions passé les solennités de Noël en prison. Nous en sommes sortis pour célébrer la fête des rois, donc à temps pour le 6 janvier 1855. En parcourant les différents villages, j'ai donné le catéchuménat à 170 ou 180 personnes, c'est-à-dire qu'il les préparait au baptême. Vers les fêtes de Pâques, donc 2-3 mois plus tard, nous sommes revenus près de nos néophytes. Il dit, j'ai choisi la fête de Saint-Joseph le 19 mars, donc, patron des missions de Chine pour régénérer le premier adulte, c'est-à-dire le baptisé, et je lui ai donné le nom de ce grand saint. Pendant 2 années, ce père Auguste Chapdelaine a exercé son ministère dans le Guangxi. Il comptait près de 200 néophytes déjà. C'est autant qu'une paroisse, que la fréquentation de certaines de nos paroisses, 200 personnes. Il avait déjà ça, lui, en quelques... si rapidement. Il comptait près de 200 néophytes convertis par ses soins. Quand a commencé tout à coup une terrible persécution, il allait en être la victime. Avec plusieurs de ses chrétiens, d'ailleurs. Les détails du martyr, assez pénibles, ont été donnés dans une lettre de Monseigneur Guillemin, qui était préfet apostolique du Kwangton et du Kwangxi. Monseigneur Guillemin, le même nom que Henri Guillemin, je me demande si c'est pas parent. Et cette lettre est datée de Canton, le 8 juillet 1856. Voici la lettre. L'occasion fut un démêlé d'un jeune néophyte avec sa femme encore païenne. Celle-ci porta plainte auprès de son père et de son frère, employés tous deux au prétoire, c'est-à-dire au tribunal, du mandarin. Ces deux hommes, animés d'une haine implacable contre le christianisme, ont formulé contre les chrétiens l'accusation la plus injuste et la plus absurde. Quand on lit d'ailleurs ces récits au 19e siècle, c'est effrayant ce que les Chinois peuvent être injustes, je regrette de le dire. Ils exagèrent, ils mentent, ils racontent n'importe quoi. C'est pas possible. Ils font des missionnaires chrétiens, mais des êtres effrayants qui torturent, qui tuent les enfants, qui... On n'a pas idée de l'imagination de ces Chinois. C'est un autre peuple, c'est une autre mentalité. Je ne sais pas à quoi ça tient. C'est très curieux, c'est très spécial. Le mandarin, le successeur de celui dont le père Chapdelaine parlait dans sa lettre, a cru devoir envahir, en tous les cas, la chrétienté du Yaochan, à 12 kilomètres de la ville où demeurait le père. Et celui-ci a cherché un refuge à Silinien, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, les satellites ont fait une quinzaine de prisonniers, parmi lesquels se trouvait une jeune fille. Vous allez voir tout à l'heure cette jeune fille, le courage de cette jeune Chinoise, qui s'appelait Agnès. 22 ans, toute jeune, quoi. 21 ans, même. Cependant, un des plus fidèles néophytes, c'était Laurent P. Mou. Il est bien heureux, hein? Il a été béatifié. Laurent Pémou, P accent aigu, trait d'union, M-O-U. Lui, il a pu échapper aux satellites. Il est venu trouver le père Chapdelaine pour lui déclarer qu'il voulait vivre et mourir avec lui, qu'il considérait vraiment comme son pasteur. 5 ou 6 femmes, mères ou épouses des prisonniers, qui étaient guidées par Laurent Pémou, sont allées réclamer aux mandarins tout ce qu'on leur avait volé. Alors le mandarin, au lieu de faire droit là, à leur requête, les a fait battre et enchaîner. Il a déchargé surtout sa fureur sur Laurent Pémou. Et le père Chapdelaine a été ensuite capturé chez le néophyte qui s'appelait Lo Kong Ye, qui a été béatifié aussi, puis conduit au tribunal du mandarin. Le 25 février au soir, Il y avait 25 confesseurs de la foi, emprisonnés, frappés à coups de rotin, soumis à un premier interrogatoire, chargés de chaînes et de la gangue. Vous savez ce que c'est la gangue? C'est une espèce de... Vous savez, un carreau de bois, quoi, dans lequel on a percé trois trous, là. Et puis c'est divisé en trois morceaux, ce carré de bois, là, puis on les referme autour du cou et des mains. Alors on introduit la tête, les mains, là, puis on referme tout ça. C'est très, très utilisé en Extrême-Orient, en Chine, la gangue. Et ils ont porté tout ça toute la nuit. Le 26 février, le lendemain, Laurent Pémoux est paru, le premier, à la barre du tribunal. Il a eu le bonheur de confesser Jésus-Christ. Paraît-il que sa figure était joyeuse, courageuse. On dit c'est un nouveau catholique, tout nouveau, nouveau. Hein? Et là, le mandarin a voulu lui faire abandonner. Le maître Ma, M majuscule A, comme Yo-Yo Ma, le fameux violoncelliste qu'on a encore entendu ces jours-ci à Montréal. Quel violoncelliste fantastique, hein, Yo-Yo Ma. Eh bien, le Ma, c'était le nom du père Chapdelaine en chinois, c'est curieux. Hein? Ce missionnaire français s'appelait Ma, pour les oreilles des Chinois. Donc, le mandarin veut que Laurent Pémoux abandonne son maître, Ma. Il répond, je ne l'abandonnerai jamais. Alors, enragé en entendant cette déclaration aussi ferme, enragé par le refus d'apostasier que lui opposait Laurent, bien, le mandarin l'a fait décapiter sur le champ. Puis, ce fut le tour de la jeune Agnès. Elle était née en 1833 dans la province de Kuaichiu, d'un vieux et pauvre médecin chrétien. Agnès Tsao Kong, c'était son nom, s'était fait remarquer par son goût pour la piété. Elle était orpheline à 15 ans. Elle avait été recueillie par des missionnaires de la province. Elle avait été instruite, puis mariée à un chrétien qui est mort 4 ans plus tard, la laissant toute jeune veuve, pauvre et sans appui. Mais elle est toujours demeurée fervente et profondément croyante en Dieu. Elle tenait sa foi de son père. Elle était catéchiste des femmes dans la mission de Kuangxi, puis elle a été arrêtée le 24 février 1856, donc à 22 ans. T'es conduite devant le juge. Rien n'a pu ébranler sa résolution d'être tout à Dieu jusqu'au dernier moment de sa vie. Enfermée dans une cage, elle était consumée par la faim et la soif et mutilée, puis elle était brisée. Et Agnès, au bout de 4 jours, a remis son âme entre les mains de son Créateur. Père, je remets mon âme entre tes mains. Elle est béatifiée, la bienheureuse Agnès Tsao Kong. Quant au père Auguste Chapdelaine, il apparut à son tour sur la scène. Interrogé d'abord sur sa religion, il a répondu comme il le devait à ses questions préliminaires. Des questions impertinentes ont suivi. Il a pris le parti de ne rien répondre. Il a reçu 300 coups de rotin sur le dos. Et ça sans proférer aucune plainte. C'est incroyable. Hein? Et durant la journée du 27 février, il a enduré le supplice de la chaîne sur les genoux. Je n'ai pas à vous expliquer, à m'étendre là-dessus, c'est épouvantable. Le 28 février, il a été enfermé dans la cage où l'on étrangle les grands criminels. Et durant sa longue et cruelle agonie, le mandarin lui a demandé, ou lui a envoyé dire plutôt, que s'il voulait donner 400 taels, la monnaie chinoise, il lui rendrait la liberté. Le père a répondu qu'il n'avait pas d'argent. Et le 29 février, comme le père Chapdelaine respirait encore, mais le mandarin l'a fait sortir de la cage et a ordonné à un garde de le décapiter. C'était le 29 février 1856, il y a 140 ans aujourd'hui. Et là, la fureur du mandarin s'est exercée sur le reste du corps. Sa tête a été portée hors de la ville, suspendue par les cheveux à un arbre. Il a des enfants en ont fait le but de leur tir, l'ont détaché à coups de pierre, ils s'en sont servis comme un ballon. Des animaux immondes, finalement, s'en sont disputés les lambeaux. Cette tête de missionnaire qui avait annoncé Jésus-Christ, cette tête de missionnaire qui avait consacré le corps du Christ, et le père Auguste Chapdelaine, prêtre des missions étrangères, était béatifié avec ses compagnons par Léon XIII en 1900. On peut vraiment le vénérer, cet homme dont la tête de prêtre a été profanée jusqu'au dernier degré, de façon si abominable qu'on ne peut que être soulevé d'horreur, mais en même temps rempli d'admiration pour le courage de ce jeune missionnaire. Et je passe maintenant à Saint-Romain de Condat, mais on change d'époque complètement. Si nous étions au 19e siècle tout à l'heure, maintenant nous passons au 5e siècle, avant même l'arrivée de Saint-Benoît de Nursie, qui a fondé les bénédictins. Je vais vous parler d'un moine, abbé de monastère, Saint-Romain de Condat, C-O-N-D-A-T, français. Saint-Romain et son frère Saint-Lupicin, L-U-P-I-C-I-N, quel étrange nom, qui est fêté, lui, commémoré le 21 mars. Eh bien, ils sont nés à la fin du 4e siècle dans la province des Sécanais. Qu'est-ce que c'est que les Sécanais? C'est un peuple qui habitait entre le Rhin et le Rhône. Cette province était appelée le Haut-Bugey, B-U-G-E-Y. On voit souvent ce nom en France. C'est une région qui a été réunie à la France en 1601. Vous savez que la France est formée petit à petit. Alors, parvenu à l'âge de 35 ans, Saint-Romain a résolu, dans une époque de décadence épouvantable, de se faire moine solitaire. C'est une tentation très forte. J'ai même des amis, moi, qui ont songé à se faire moine solitaire ici au Québec, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années à peine. Il existe comme ça, comme je vous l'ai déjà dit, plus de 500 moines ou moniales solitaires en France. Les solitaires sont de plus en plus nombreux. Mais c'est très dangereux que de se faire solitaire. Je crois qu'il est préférable d'avoir de bons guides et d'être dans un monastère bien organisé. Même si c'est un petit monastère. Dans l'intention, donc, de se former, justement, Saint-Romain est allé se placer sous la conduite de Sabin, qui est le masculin de Sabine, abbé d'Ainay, A-I-N-A-Y. C'est un monastère fondé juste au confluent de la Saône et du Rhône, en France. Notre mère, l'Église de France, qui nous a formés ici, nous, les descendants des Français. Il a remarqué, Saint-Romain, que les religieux vivaient dans ce monastère du travail de leurs mains, puis il a résolu de faire la même chose. Peu de temps après, mais il s'est retiré. Il a apporté avec lui un exemplaire de la vie des pères du désert. Voyez-vous, toujours les vies des saints ou les vies des pères du désert, ça marque, c'est très important. C'est pour ça qu'à Radio Ville-Marie, on a cette émission de 11h à midi tous les jours, du lundi au vendredi, avec reprise le soir un peu passé minuit. Et il a apporté aussi avec lui un livre qui était très déjà classique et que je me souviens quand j'étais à Saint-Benoît-du-Lac dans les années 40, c'était classique aussi encore, Les Institutions de Cassien. Cassien, vous voyez, ça a été écrit avant le 4e siècle. Cassien est célébré le 23 juillet, je vous en parlerai. Saint-Romain s'est rendu à ce moment-là dans les forêts denses là, du Jura. Le Jura, ces forêts-là, ça sépare aujourd'hui la Franche-Comté là, du pays de Gex. Ça s'est arrêté finalement dans une vallée qu'on appelait Condat, d'où son nom de Saint-Romain de Condat. Et Condat, ça veut dire confluent dans l'ancienne langue. C'est là où se réunissent deux rivières, quoi. Je vous fais grâce du nom des rivières. Tacon et Bienne, au cas où il y en a qui connaissent ça. Il a trouvé dans cet endroit un espace de terre qui était vraiment tout à fait ce qu'il fallait pour faire de la culture. Il a trouvé même ce qu'on appelle une fontaine, un puits, puis des arbres, très importants, parce qu'il faut se chauffer en hiver, etc. Le bois, se construire, très important. Alors il s'y est installé. De partager son temps entre la prière, la lecture, le travail manuel, comme font les moines. Il était très heureux, dit-on dans les vieux textes, et j'aime bien l'expression, il était très heureux d'être oublié du monde qu'il avait oublié le premier. C'est toute la spiritualité monastique, on peut dire, qui est résumée dans cette phrase un peu curieuse. Oublier du monde qu'il avait oublié le premier. Et alors, son frère Lupicin, lui, s'était marié, comme malgré lui, disait-il. Mais lorsque son père et sa femme sont morts, il a fait comprendre à sa mère et à sa sœur qu'il devait les quitter parce qu'il disait que son frère Romain lui était apparu en songe pour l'appeler au désert, c'est-à-dire à vivre dans la solitude. Alors il est donc venu trouver Romain, son frère, dans sa solitude, puis il s'était donné près de lui à des pratiques évidemment assez austères. Le diable a tenté de détruire l'union de ses deux frères. Ils ont été branlés un instant dans leur projet. Mais ils ont repris courage. Leur ferveur leur a valu l'arrivée de plusieurs disciples. C'étaient des hommes qui fuyaient le monde décadent, l'empire de Rome qui éclatait. Ils venaient à ces deux frères, ces gens-là, attirés par la réputation de leur bonté et le bruit des miracles aussi qu'ils opéraient. Il y avait aussi, pour s'attacher à eux, des malades qu'ils avaient guéris. Il a fallu alors bâtir un premier monastère qui a été élevé sur le terrain de Condat, puis un second à 2000 de distance au nord qui a reçu le nom de Leucone. Alors les deux frères ont gouverné conjointement ces deux monastères, allant de l'un à l'autre pour exhorter les disciples la pratique de la règle et puis à être de bons moines. Ces deux chefs de monastère étaient d'un caractère toutefois bien différent. Un Romain était naturellement plutôt doux, lui. Il était paisible, il était accommodant. Mais son frère, Lupicin, au contraire, était ferme, lui. Était rigide. Mais l'Esprit Saint a tempéré heureusement la faiblesse de l'un par la rigidité de l'autre. Et puis, il en est résulté quoi? Ben, une bonne administration, mais on dirait même une excellente administration, pour le bien de tous ceux qu'il gouvernait. Et Saint Romain assurait toujours de sa clémence ceux qui se trouvaient en faute. Il savait être miséricordieux. Et ça, sans attendre même qu'ils avouent leur faute. Mais son frère Lupicin, Saint Lupicin, n'était pas comme ça, lui. Il ne s'opposait pas à cette indulgence de son frère Romain, mais il la resserrait autant que possible pour fermer la porte au relâchement, puis pour prévenir les rechutes. Saint Romain, lui, ne croyait pas qu'il devait imposer à ses disciples un joug trop pesant. Mais Saint Lupicin, lui, estimait que les religieux doivent toujours tendre à la perfection. Alors il leur exposait dans ses discours ce que son frère et lui pratiquaient pour leur donner l'exemple. Alors Saint Romain de Condat ne tenait aucun compte des personnes, lui. Mais il recevait indifféremment tous ceux qui se présentaient au monastère pour devenir moines. Saint Lupicin, lui, se montrait difficile dans le choix de ses sujets. Il usait d'une grande circonspection à l'égard des novices. Cette opposition entre ces deux frères aurait pu être un sujet de division, hein, entre des gens qui auraient été moins unis qu'eux, mais ils s'aimaient beaucoup. Alors, ils réussissaient toujours à s'entendre, finalement. Et ces deux frères, bien, n'avaient qu'un même principe et un même but. On trouvait toujours dans l'un de quoi supplier à ce qu'on aurait pu souhaiter dans l'autre. Et Romain, bien, tout en étant l'aîné, cédait souvent à son plus jeune frère, Saint-Lupicin, par tempérament, par raison aussi, parce qu'il était très intelligent. Et on peut dire que Dieu se déclarait aussi, quelquefois, se manifestait par des effets sensibles, en faveur de sa douceur et de sa facilité. Ainsi, on a vu des conversions admirables de religieux qui étaient sortis du monastère et qui l'avaient reçu ensuite quand ils demandaient à rentrer et qui se convertissaient profondément. Aujourd'hui, des religieux qui sortent comme ça, on les reprend pas facilement. Dans ce temps-là, ça se faisait très couramment, hein. Un des anciens moines qui avait le plutôt le caractère de Lupicin, a repris un jour Saint Romain de sa facilité à recevoir les postulants. En remplissant, lui avait-il dit, le monastère de gens qui paraissent plutôt ramassés que choisis, on ne laisse pas de place pour des sujets plus dignes. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de renvoyer ceux en qui l'on trouve quelques défauts pour garder uniquement ceux d'une vertu solide et bien éprouvée? Alors Saint Romain lui a répondu, pouvez-vous faire si aisément le discernement que vous souhaitez? C'est très important, c'est écoutez bien ça. Pouvez-vous faire si aisément le discernement que vous souhaitez? Dieu seul connaît le fond et la disposition des cœurs. Parmi les disciples, il s'en est trouvé qui ont commencé avec ferveur et sont ensuite tombés dans le relâchement. Mais d'autres, après avoir quitté deux ou trois fois le monastère, ils sont ensuite rentrés et ont servi Dieu le reste de leurs jours avec une piété exemplaire. Parmi ceux-là, qui se sont tout à fait séparés pour retourner dans le monde, quelques-uns, loin de s'abandonner aux vices, ont religieusement gardé les maximes apprises auprès de nous dans le monastère. Élevés à la prêtrise, ils gouvernent actuellement avec édification des églises ou des abbayes ailleurs. Alors, notre saint abbé Romain de Condat apportait des exemples à l'appui. Alors finalement, le moine qui avait protesté a été obligé de reconnaître que son zèle était mêlé d'une présomption plutôt amère. Une année, les récoltes ont été plus abondantes. Les moines de Condat en ont pris l'occasion de se relâcher de leur abstinence, ils ont mangé davantage. Et Romain n'a pas pu les ramener dans le devoir. Il a dû appeler à son aide son frère Lupicin, qui était plus sévère. Et celui-ci, arrivé à Condat, au monastère de Condat, a mangé pendant deux jours ce qu'on lui servait. Il a obtenu ensuite que, suivant sa manière ordinaire de vivre, on lui prépare sa nourriture sans huile et sans sel. Alors, Saint Romain y a consenti. Puis, à la prière de son frère, il est allé demeurer, lui, à Leucon, l'autre monastère que dirigeait Lupicin, pendant que Lupicin lui ferait pénitence avec ceux de Condat. Hein. Alors, ces derniers, à Condat, se sont trouvés ainsi assujettis à suivre le même régime que l'abbé qui venait d'arriver. Bientôt, les plus relâchés ont murmuré. Et voyant que leur murmure ne servait à rien, bien 12 d'entre eux ont pris le parti de sortir du cloître. En une seule nuit, les autres ont retrouvé la paix dans la règle, bien observée. Mais Saint Romain n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa plainte quand il a vu que la sévérité de son frère avait obligé 12 religieux à partir en pleine nuit. Il a dit, le domaine du Seigneur est purgé, les pailles étant dehors, le froment seul est resté, lui a dit son frère Saint-Lupicin. Pour lui, il avait purgé le domaine du Seigneur. Alors, tout ce qui était comme de la paille, qui valait rien, était dehors. Mais le froment, ce qui était bon, était resté dans le monastère. La réflexion était conforme à l'esprit de l'Évangile. Et ça a pu consoler Saint Romain de la perte de ses frères qu'il aimait. Sa charité lui faisait craindre pour leur salut. Il ne voulait pas qu'ils se perdent dans ce monde très décadent dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à force de larmes et de prières, il a obtenu leur conversion, puis il a eu la joie de les voir rentrer au bercail. Les uns plus tôt, les autres plus tard. Ils étaient tous animés d'un repentir sincère. On peut voir que ce moine abbé, qui n'était pas prêtre, Saint Romain, était un vrai père. Comme celui de l'enfant prodigue, dont Jésus nous parle dans l'Évangile. Il y a eu une déposition qui a été faite par un évêque de Besançon vers 444 qui s'appelait Chilidoine. Et ça a fourni à Saint-Hilaire d'Arles l'occasion de connaître les vertus et les mérites des deux frères abbés dans le Jura. Il a voulu s'en assurer personnellement. Il a fait venir Saint-Romain à Besançon. Il a constaté sans peine la sainteté de cet abbé qui était humble. Et malgré sa résistance, là, bien que Saint-Condat soit alors du diocèse de Lyon et non pas du diocèse d'Arles ou de Besançon, il lui a conféré le sacerdoce. C'est là qu'il est devenu prêtre, cet abbé. Et cette nouvelle dignité, si on a pu appeler ça une dignité, c'est un service de sacerdoce, hein? Mais ça n'a pas apporté de changement dans sa conduite. Saint-Romain restait simple, familier avec ses religieux. Il cherchait à les surpasser en régularité et au besoin même en mortification. Et c'était seulement pendant l'offrande de la messe du Saint-Sacrifice que paraissait sa qualité de prêtre. Autrement, il se conduisait comme un simple moine, un frère parmi les autres, tout en étant leur abbé. La réputation de Saint-Romain s'est répandue chaque jour davantage. Et les disciples se présentaient en grand nombre. Outre les monastères de Condat et de Leucone, ben, il a fallu en bâtir d'autres. Au-delà du mont Jura, dans les Vosges, jusqu'en Allemagne. Alors Saint-Romain et Saint-Lupicin avaient une sœur qui a voulu imiter leur genre de vie. Ils lui ont fait construire un monastère sur un rocher voisin de Leucone. Ce couvent a été appelé la Baume. Non pas la Sainte Baume, mais la Baume. Et plus tard, s'est formé, tout autour, le village appelé Saint-Romain de la Roche. Parce que Romain a été enterré dans l'église du couvent. Ce couvent qui était construit sur un rocher, sur une roche. Saint-Romain de la Roche. Ces établissements, ces monastères, de l'un et l'autre sexe, là, les reconnaissaient Romain et Lupicin pour leur père et directeur. Puis la maison, le monastère de Condat, était considérée comme la source d'où ils étaient sortis. Et la règle imposée à tous était tirée des observances du fameux monastère de Lérins, face à Cannes, sur l'île de Lérins, et des institutions dont je vous ai parlé, les institutions de Cassien. Aux règles orientales de Saint-Basile et de Saint-Pacôme, qu'on peut se procurer, on peut acheter ça en librairie, la règle de Saint-Basile, la règle de Saint-Pacôme, et des petits livres, très intéressants à lire. Bien, aux règles orientales, donc, de ces deux saints, on avait emprunté certains usages qui pouvaient convenir au climat de la Gaule, et les moines cultivaient donc la terre pour vivre. Et ils ne mangeaient jamais de viande, sauf en cas de maladie. L'existence, donc, de Condat a précédé d'environ un siècle l'arrivée des bénédictins en France. Outre les visites fréquentes que les deux frères rendaient aux maisons établies par eux et par leurs moines, bien, ils faisaient aussi des pèlerinages de piété, des pèlerinages dans les lieux voisins. Ils allaient visiter le tombeau de Saint-Maurice d'Agone. Et Romain s'est trouvé surpris par la nuit près de Genève, puis il est entré avec Palade, son compagnon, dans une chaumière. Sur le bord du chemin, c'était la retraite d'un pauvre homme, de son fils, qui était atteint tous deux de la lèpre. Ils étaient sortis pour aller chercher du bois. Alors au retour, les deux lépreux ont été bien étonnés de trouver deux religieux dans leur cabane. Leur surprise a été encore bien plus grande quand Saint-Romain, imitant le grand Saint-Martin, les a embrassés, sans marquer la moindre répugnance pour leur maladie épouvantable. Il a mangé, il a passé la nuit avec eux. Le lendemain, après avoir rendu grâce à Dieu puis remercié ses hôtes, Saint-Romain a continué sa route. Et comme les lépreux s'entretenaient avec admiration de la vertu des deux religieux, ils se sont aperçus en se regardant l'un l'autre qu'ils étaient entièrement guéris, comme les lépreux de l'Évangile, guéris par Jésus. Or, remplis de reconnaissance et de joie, ils ont couru à Genève pour tâcher de rejoindre leur libérateur. Ils ont raconté le miracle dans toute la ville. Ils étaient fort bien connus à cause des aumônes qu'on leur donnait. Et à son retour du tombeau de Saint-Maurice d'Agone, Romain a été accueilli et conduit en triomphe par le clergé, les magistrats et le peuple de Genève. Il en a profité pour exhorter les Genevois à demeurer fermes dans la foi chrétienne. Puis ayant guéri encore plusieurs autres malades, il est allé rapidement se renfermer dans son monastère de Condat. Saint Romain a vécu environ 70 ans. Il est mort saintement, en présence de sa sœur, devenue abbesse de la Baume, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de Saint Lupicin, son frère, auquel il a recommandé le soin de ses religieux. C'était le 28 février de l'an 463. Le corps de Saint Romain, accompagné par des moines de Condat et de Laucogne, a été inhumé, suivant son désir, dans l'église de la Baume. Je l'avais signalé tout à l'heure, là, le monastère de sa sœur. Saint Grégoire de Tours dit à ce sujet que s'il n'a pas voulu être inhumé dans son monastère, c'est qu'il ne voulait pas en troubler la solitude parce qu'il était trop populaire. Et Dieu a continué à l'honorer du don des miracles après sa mort, comme il l'avait fait pendant sa vie. Et le corps de Saint Romain a toujours été conservé au monastère de la Baume. Voilà pour la fête de ces deux saints remarquables. Je vous glisse un mot sur Sainte Antoinette, ça pourra plaire à certaines personnes. Sainte Antonia, qui était mère de famille, était veuve, elle est morte en 1472. Elle est née à Florence, elle était mariée dès l'âge de 15 ans à un homme dont on ignore le nom. Elle est devenue veuve avec un enfant. Elle est entrée quelques années après dans un second veuvage. Elle est entrée finalement chez les Clarisses de Saint-Onufre. Elle a édifié la communauté par sa piété et ses vertus. Finalement, elle a été envoyée au couvent de Sainte-Anne à Foligno, là. Bon, je vous ai déjà parlé quand je vous ai parlé de Saint-Angèle de Foligno. Puis elle est devenue prieure du couvent de Sainte-Élisabeth à Aquila. Après plusieurs années, Saint-Jean de Capistran, son directeur, lui a fait donner le monastère de Corpus Christi à Aquila, où il a fait renaître l'observance de la règle des Clarisses dans toute sa pureté. Son fils lui a occasionné que des chagrins. Mais sa patience à la bienheureuse Antoinette ne s'est jamais altérée au milieu des peines que lui occasionnait son fils, au milieu des maladies non plus. Elle était même la consolation des affligés. Elle était le soulagement des infirmes. Elle a toujours soutenu les faibles. Elle a été honorée d'une apparition de la Sainte Vierge et de plusieurs visions, puis elle est morte saintement le 29 février 1472. Des miracles se sont produits à ses funérailles. Et contrairement à la coutume, les habitants d'Aquila ont demandé que son corps soit exposé dans l'église. Le 11 septembre 1847, le pape Pie IX a approuvé le culte immémorial rendu à cette merveilleuse Clarisse, mère de famille et deux fois veuve. C'est assez exceptionnel. Je vous signale que c'est toujours le carême. Et savez-vous que des vieillards québécois disaient, il y a déjà longtemps, dans le village où j'ai été élevé, j'ai connu plus d'un cultivateur qui, pendant le carême, se rendait à la grange tous les matins à 4h30 et battait du grain jusqu'au moment de son déjeuner à 11h30. Imaginez. Je vous parlerai de ça en détail, des coutumes du carême de nos ancêtres. C'est très intéressant. Ça nous fait sourire, mais on sera peut-être plein d'admiration pour ces hommes et ces femmes auxquels nous devons, pour ceux qui ont conservé la foi, cette conviction profonde que le bonheur n'est qu'en Dieu et que seul le Christ peut nous faire vivre les yeux ouverts sur le monde de l'invisible, qui est le monde le plus réel qui soit, bien plus réel que tout ce qui nous entoure, qui sombrera dans la poussière un jour ou l'autre, comme toutes les civilisations comme toutes les constructions, comme toutes les villes d'autrefois.